Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour et bonne année. Non, je pense que je vous ai déjà souhaité la bonne année. Mais alors, ça va être une année extraordinaire, extrêmement riche en événements, ça c'est sûr. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Jean Guillonny. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors, Jean Guillonny, je l'ai interviewé il y a quelques années. Il était au Parlement européen. Maintenant, il a la chance de revenir un petit peu sur notre territoire de la jolie France. Évidemment, en tant que président de l'Institut de transition foncière, et on va en parler. Et puis, une nouvelle société qui se profile, une création de sa propre société qui s'appelle Aqua Alta. Donc, bonjour Jean. Et bonjour. Surtout, le parcours. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui fait que, après les études que vous avez faites, Sciences Po, vous allez nous en parler, on passe des institutions à la réalité d'une société, c'est autre chose, non ?
Oui, tout à fait. Je dirais que c'est la volonté à l'heure où on fait face à des risques qui sont croissants, où l'année commence avec des méga feux à Los Angeles, après avoir terminé avec des méga inondations à Valence. Le souhait de se confronter un petit peu plus à l'ingénierie, aux besoins des territoires, concrètement, davantage qu'à l'élaboration des politiques publiques, puisqu'en fait j'ai passé des années à faire ça, à travailler.
C'est-à-dire qu'on ne croit pas à l'idée que les bonnes idées se concrétisent.
C'est-à-dire qu'on a parfois de plus en plus besoin de voir les résultats soi-même ou d'y participer. Et d'ailleurs, je pense que moi, mon parcours le traduit. J'ai commencé plutôt en cabinet ministériel ou au Parlement européen, donc auprès du législateur. C'est un endroit où les débats sont vifs, passionnants, et où en même temps, y compris lorsqu'on obtient des victoires,
on ne les voit pas.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on en voit très peu la traduction parce qu'il faut passer à l'agenda législatif suivant. Et on prend peu le temps, souvent, de savoir comment ça s'est traduit sur le terrain. J'ai décidé après, donc, de me rapprocher d'une politique publique qui s'incarnait plus fortement dans le territoire avec Action Cœur de Ville, dont je me suis occupé pendant 5 ou 6 ans.
Pour les coups, il y avait la réalité.
On est beaucoup plus déjà dans l'opérationnel, avec à la fois une contractualisation entre l'État et les territoires, avec des fonds qu'il faut déployer, avec une évaluation de nos politiques publiques qu'il faut mettre en œuvre.
Donc là, sur 5 ans, vous avez pu voir ce qui se passait, comment les politiques étaient mises en œuvre, et surtout comment les élus, les départements, les régions réagissaient justement à ces politiques.
Oui, exactement. Non seulement comment ils réagissaient, mais aussi à quels obstacles ils étaient confrontés. Et je pense que c'est ça, justement, le fait de parfois être partie prenante de certains déblocages locaux, de montage sur des projets complexes, quand vous avez le maire d'une ville du Nord qui vous appelle parce qu'il a un îlot de centre-ville avec une galerie commerciale des années 70 qui est encastrée faut faire du sur-mesure et qu'on va faire une réunion pour se creuser la tête ensemble et des visites pour savoir quels acteurs on va mettre autour de la table. Je pense que c'est ça qui m'a un peu démangé et au bout de quelques années m'a fait penser qu'il y avait besoin d'accompagner un petit peu cette ingénierie et d'en faire un peu plus mon quotidien.
Alors, l'Institut de la transition foncière, on en entend parler beaucoup dans nos métiers. Tricotez-nous un petit peu toute cette histoire.
C'est d'abord parti d'une réflexion collective qui a donné un livre, puis qui a donné une association qui aujourd'hui est un peu un acteur d'intérêt général autour d'une grande ressource, les sols, comme il y en a autour du carbone ou de l'eau, et qui est un acteur associatif et d'intérêt général, donc qui fait de l'innovation ouverte, qui fait de la recherche, qui accueille des partenaires publics, privés, institutionnels pour des démarches collectives, mais qui ne va pas accompagner un acteur. Et donc, d'ailleurs, ça ça fait partie des motivations hein, qui ont présidé pour moi à la création de l'agence Aqua Alta, c'est que je me suis retrouvé avec des acteurs qui disaient oui, bon, d'accord, je veux bien participer à une démarche ouverte, à une démarche d'innovation, mais moi j'ai un besoin très spécifique, j'ai un projet complexe dont le montage est pas terminé, j'ai une stratégie, je sais pas, de compensation à monter, j'ai une stratégie de renaturation à monter, j'ai une stratégie de sobriété foncière à monter, j'ai...
Alors,
et voilà.
Aqua Alta, j'espère que vous n'allez pas vous noyer parce que le nom est quand même un peu alors, à la fois ambitieux et qui peut être dangereux. Mais du coup, Aqua Alta, ça donne le sentiment que vous êtes plutôt ingénieur hydro que...
Oui, alors je voulais pas m'enfermer derrière quelque chose qui serait un peu univoque ou qui explique comme ça en un mot exactement avec détail un créneau spécifique. Je voulais plutôt envoyer un message global. Ce message, quel est-il ? Et puis moi, j'ai des liens très forts avec l'Italie, hein, c'est pour ça, c'est un nom italien, j'y passe personnellement beaucoup de temps, et peut-être d'ailleurs que voilà, j'y travaillerai partiellement. C'est parce que il est né ce nom où, lorsque j'ai observé la différence entre les inondations du Pas-de-Calais d'il y a un an, un peu plus d'un an, et Venise.
Ouais.
Quand vous avez une méga inondation dans le Pas-de-Calais, que l'eau monte d'un mètre,
horrible.
Vous devez raser les maisons. Voilà. Désurbanisation. À côté, vous avez une ville qui a été conçue,
qui a été conçue comme ça,
mais où l'eau monte trois fois par an, un mètre au-dessus également, et qu'on n'a jamais eu besoin de détruire. Donc le message, il était celui-là, il était de dire l'eau monte, c'est inéluctable, le changement climatique arrive, c'est inéluctable, mais on voit déjà en observant les territoires qu'il y en a qui permettent de trouver des sources d'inspiration pour s'adapter, pour participer à l'atténuation. Et voilà, pour être un petit peu...
Donc, est-ce à dire que demain, le travail sur les territoires, c'est quelque part cartographier tous les territoires français où on a des risques absolument terribles, que ce soit sécheresse, inondation, c'est quelque part donner à voir ce qu'on va vivre
je pense que
dans les 30 années, 40 années.
Je pense que chaque territoire, en tout cas... auparavant, si vous voulez, l'urbanisme, c'était quoi ? C'était le spatialisateur de la croissance. Voilà, pendant des années fordistes, d'ailleurs,
on fait la direction du territoire.
Voilà, la loi d'orientation foncière, on crée les ZAC, etc. En fait, l'urbanisme progressivement oublie, d'ailleurs, tout un nombre de savoirs scientifiques et vernaculaires sur le territoire et les écosystèmes.
Par exemple, pour petites bêtes qui sont dans la terre.
Par exemple, mais on l'a vu récemment avec les questions de réchauffement. Oublie aussi comment utiliser les vents. Oublie ces savoirs-là pour se consacrer à spatialiser un développement économique qui va bon train dans une France qui va bon train. Et puis aujourd'hui, il est l'héritage de ça, c'est-à-dire qu'il est encore normalement un instrument pour spatialiser. Pour spatialiser de la croissance, qu'elle soit démographique, économique, touristique, etc. Et aujourd'hui, il est en train de se transformer parce que justement, vous l'avez dit, donc il y a des territoires qui sont à risque. En fait, chaque territoire est confronté à ses limites au sens des limites planétaires. La théorie des limites planétaires, elle est utile pour ça, hein, les 9 limites dont certaines sont déjà largement dépassées par la planète. Chaque territoire aujourd'hui est un peu en train de cartographier ses limites.
Est-ce que ça fait cohérence ? Parce que les frontières ne s'arrêtent pas à la France. L'Europe en soi a déjà des limites qui sont pas neutres.
Oui, mais c'est comme souvent, et comme sur l'eau d'ailleurs, c'est des cycles qui sont assez largement intriqués, c'est-à-dire que même si quand on est un territoire, on n'a pas beaucoup de prise sur le grand cycle de l'eau, en revanche, on peut restaurer le petit cycle de l'eau et on peut avoir d'ailleurs des effets important et sur les sols, sur l'agriculture, sur le climat local, sur le rafraîchissement, en travaillant à l'échelle de ce petit cycle-là. C'est vrai pour les autres sujets de transition, c'est vrai pour les sols, c'est vrai pour... Donc au contraire, je pense que... En tout cas, moi, je voudrais participer à ce changement de paradigme où l'urbanisme, ça devient quelque chose qui est, le vecteur de nouveaux liens, on raccroche les wagons avec certains savoirs scientifiques, climatiques, démographiques, hein, démographiques aussi, parce que vous connaissez les PLU comme moi. Aujourd'hui, si on prend la France, au titre des SCOT et des PLU, c'est une France à 90 millions d'habitants, hein, ou à 80 millions d'habitants. Hein, je veux dire, donc là, il y a un travail qui a été fait de rétablissement de savoir scientifique, y compris démographique, pour dire, bah non, il est peu probable, voire en fait, il est complètement impossible que vous connaissiez cette croissance démographique-là.
Mais non, d'autant plus qu'il y a une baisse très forte de la natalité, voilà, quand même. Hein.
Et alors que, comme sur le climat d'ailleurs, comme sur d'autres sujets, sur la démographie aussi, moi j'ai eu l'occasion de l'observer dans les villes moyennes, et c'est pour ça que moi je veux travailler à ce que j'ai appelé le ménagement des territoires, parce que aujourd'hui...
C'est-à-dire être délicat, faire attention...
Oui, c'est-à-dire il n'y aura pas de... En fait, c'est-à-dire cesser la grande dégradation comme ça, je prends, je jette, je ne recycle pas.
Mais comment on fait espérer, argent ? Mais ça a l'air d'être un tout petit peu, on va dire, utopique. Vous allez être rattrapé par les acteurs divers et variés de l'aménagement qui, quelque part, doivent... produire de la valeur ajoutée monétaire.
Non, parce qu'aujourd'hui, eux aussi, ils sont encombrés de leurs déchets, c'est-à-dire des biens vacants. Donc, eux aussi, ils sont encombrés de biens qui leur sont coûteux, qui sont immobiles, qui sont à refaire, qui sont à restructurer. Et en vérité, ils le savent. Ils sont aussi contraints, d'ailleurs, par des dynamiques de complexité et de dureté du marché foncier, de toutes ces choses-là, qui fait ils savent qu'ils doivent aujourd'hui réfléchir à des nouveaux modèles, et notamment des nouveaux modèles économiques.
Oui, mais on sait très bien que ces nouveaux modèles mettront un temps certain à se mettre en place. Et donc, il y a des périodes de transition pendant lesquelles les propriétaires fonciers, propriétaires de bureaux obsolètes, par exemple, etc., comment vont-ils faire pour ne pas perdre la valeur de leurs biens.
Alors, moi, je...
Et être d'accord, du coup, d'aller vers cette transition.
Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément, du coup, accuser cette rupture et envoyer un futur où on se dit quand ce sera prêt. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a d'autres associations, d'ailleurs, comme Surface Plus Utile, qui y travaillent. Il y a des moyens de faire de l'urbanisme transitoire. Il y a des moyens d'utiliser des bilans comme celui qu'on développe nous à l'Institut de la Transition Foncière, qui valorise les externalités positives, y compris les externalités négatives liées à la sobriété, justement, mais qui les valorise financièrement. Aujourd'hui, il y a des premiers outils qui permettent de faire ça. Et effectivement, je pense que peu les utilisent encore, qu'ils sont encore à déployer massivement, mais il ne faut pas le renvoyer à un futur lointain. Il y a des premiers outils, et d'ailleurs, moi, j'aimerais participer à les massifier un petit peu.
Justement, on va descendre sur le plancher des vaches lors de notre deuxième interview, vous êtes d'accord, hein ?
Histoire
de vraiment rentrer dans le concret.
Avec plaisir.
Merci Jean et à bientôt. Merci. À bientôt chers auditeurs.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.